Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Il est possible que nous soyons au seuil d'une nouvelle ère de l'histoire de l'Église, où le christianisme existera plutôt sous le signe de grains de sénevé, en petits groupes, apparemment sans importance, mais qui vivent intensément pour lutter contre le mal et implantent le bien dans le monde, qui ouvre la porte à Dieu. Amis auditeurs, bonjour, c'est le retour d'Orient Extrême. Ces mots de Benoît XVI semblent prophétiques. Il annonce une époque où les chrétiens seront minoritaires et réduits à de petites poches de résistance. Cette époque, les chrétiens japonais l'ont déjà vécue au XVIIe siècle et sont restés fidèles à la foi catholique malgré l'adversité. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Et pour évoquer cette période de proscription au Japon, je reçois Martin Ramos. Bonjour Monsieur Ramos.
Bonjour.
Martin Noguera Ramos, vous êtes historien et maître de conférences à l'École française d'Extrême-Orient. Vous êtes l'auteur de « La foi des ancêtres, chrétiens cachés et catholiques dans la société villageoise japonaise du XVIIe au XIXe siècle », paru aux éditions CNRS. Vous avez coédité récemment deux volumes, l'un sur les relations franco-japonaises au XIXe et l'autre sur l'histoire religieuse de l'époque d'Edo. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte général et les débuts de l'histoire du catholicisme au Japon ?
Oui, bien sûr. Alors, il faut prendre la chose, en fait, de deux côtés. Il y a tout d'abord le contexte européen et le contexte japonais. Donc, du point de vue, on va dire, européen, on a une nouvelle société religieuse, ou compagnie religieuse plutôt, qui est la compagnie de Jésus, donc les jésuites, qui est fondée en 1540 et va très rapidement se lier à plusieurs couronnes européennes, notamment la couronne du Portugal, et va suivre, hein, en fait, ses premiers conquérants, ses premiers marchands portugais, un peu partout, hein, en Amérique, en Afrique et en Asie. Et, disons, en suivant ces Portugais, vont s'installer dans plusieurs pays d'Asie, notamment au Japon, en 1549. Du point de vue japonais, c'est une époque un peu particulière. Nous sommes dans l'époque des royaumes en guerre. C'est une période de très grande fragmentation politique. Donc il y a bien un empereur et un shogun, mais le premier comme le second n'ont qu'une autorité, disons, plutôt théorique que pratique, et la réalité du pouvoir se partage entre une multitude de seigneurs, on appelle en japonais les daimyo, et donc les jésuites, donc à partir de 1549, vont devoir apprendre à composer avec cette réalité politique et aussi à s'adapter à une société et à une langue qu'ils ne connaissent pas.
À cette époque, ils sont bien reçus par justement ces shoguns et ces seigneurs dont vous nous parlez ?
Alors, c'est variable. C'est très variable selon, on va dire, l'intérêt qu'ils peuvent susciter auprès de ces daimyo. Il faut bien dire qu'au tout début, c'est plutôt les possibilités commerciales et d'intermédiaires, en fait, avec les marchands portugais qu'offrent ces jésuites qui intéressent les daimyo. Et moins les questions religieuses, même si ça va changer, hein, et certains daimyo vont s'y intéresser. En ce qui concerne le pouvoir, central, entre guillemets, donc à Kyoto, hein, donc l'empereur et shogun, ils ont un intérêt assez faible. Hein, l'empereur refuse de recevoir François-Xavier en 1551. Et sont plutôt des daimyo, certains daimyo qui vont aider les jésuites, hein, soit par intérêt, soit par curiosité aussi, sans toujours se convertir d'ailleurs.
Vous diriez que c'est un succès avec le recul, cette première évangélisation des missionnaires au Japon ?
C'est un succès en termes de... Alors c'est toujours difficile, hein, de qualifier quelque chose de succès ou d'échec. En termes de chiffres, c'est relativement important à partir du moment où des daimyo, hein, vont se convertir, ou des vassaux importants de daimyo. Vous avez en général un mouvement, parce qu'on est dans une époque où généralement la population suit le choix donc des élites, et la conversion d'un seul daimyo peut provoquer donc le changement, le basculement de dizaines de milliers de personnes. C'est le cas par exemple du premier daimyo chrétien qui s'appelle Omura Sumitada, qui va être baptisé du nom de Bartholomé en 1563, et qui, 10 ans après sa conversion, va amener dans son sillage plus de 40 000 ou 50 000 personnes donc, au christianisme.
Le shogunat Tokugawa décide d'interdire le christianisme en 1614. Pouvez-vous nous donner les raisons de ce choix ?
Alors, on est passé à l'époque suivante, on est passé du XVIe au XVIIe siècle, et il y a eu un processus, en fait, entre la deuxième moitié du XVIe siècle et le début du XVIe siècle. C'est celui d'un double mouvement d'unification. On a un mouvement donc, de renforcement du pouvoir des daimyos au sein même de leur territoire, puisque au début du XVIe siècle, il y avait en général, et même une grande partie la deuxième partie du XVIe siècle, les daimyos devaient lutter contre certains de leurs vassaux, qui parfois étaient des cousins, qui étaient un petit peu réfractaires à leur autorité. Donc il y a un mouvement de renforcement de l'autorité de ces daimyos. Et dans le même moment, il y a un mouvement d'unification du Japon, qui au départ n'est pas lancé par les Tokugawa, mais dont les Tokugawa vont parachever, disons, l'œuvre. Et c'est donc au tout début du VIIe siècle que le pouvoir des Tokugawa s'impose à l'ensemble, en fait, hein, des daimyos. Alors, de manière, c'est pas un pouvoir unifié, totalement centralisateur, mais disons qu'à partir du 7e siècle, du début du 7e siècle, ils commencent à pouvoir contrôler les daimyos, leur imposer certaines lois. Et donc, l'interdiction du christianisme. Alors, c'est pas une interdiction brusque, puisque déjà, donc le Japon a connu 3 unificateurs, le premier Oda Nobunaga, le second Toyotomi Hideyoshi, le second unificateur avait déjà promulgué des textes visant à la limitation de la propagation du catholicisme au Japon en 1587. Au moment donc de sa conquête du sud du Japon, il était donc arrivé dans les territoires où il y avait une présence chrétienne importante, et il avait constaté que l'Église catholique disposait d'un pouvoir temporel qui était équivalent à celui de certaines écoles bouddhiques, et avait pris donc des mesures qui, théoriquement, auraient dû déjà mener à l'expulsion des jésuites, mais finalement, ça n'a pas été appliqué dans un premier temps. Et ça a été le premier, un peu, le premier signe hein, de danger hein, pour la Compagnie de Jésus, 40 ans après son arrivée. Et ensuite, donc, à la fin donc, du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, plusieurs daimyos commencent eux-mêmes soit à expulser la Compagnie de Jésus, soit à interdire le christianisme. Donc il y a déjà des signes donc avant-coureurs, et les shoguns des Tokugawa donc vont interdire progressivement le christianisme entre 1612 et 1614, d'abord dans les territoires directement contrôlés par shogunat, puis ensuite dans l'ensemble du territoire.
On parle de l'ouverture d'une période de proscription. Qu'est-ce que ça veut dire la proscription, et comment est-ce qu'elle va se manifester concrètement?
Alors, c'est une question assez complexe, puisque interdire une religion d'un point de vue textuel, c'est facile, mais d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme je le disais en début d'émission, le shogun donc, s'impose dans l'ensemble du pays, mais il ne régimente pas l'ensemble des lois de tous les territoires qui se trouvent au Japon. Donc les lois sont plus ou moins, donc, peuvent varier. Et même s'il y a donc une volonté d'intérieur le christianisme qui est signifiée assez clairement à l'ensemble donc des daimyos, il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi qui est donné aux daimyos, donc les réponses des daimyos vont varier hein, d'un territoire à l'autre. Ça peut aller donc de daimyos qui tout simplement n'appliquent absolument pas la loi, donc qui tolèrent la présence encore même de missionnaires, alors ça va changer assez rapidement. Ou alors des cibles qui peuvent varier. Donc certains vont s'occuper d'abord des vassaux, des gens d'un certain rang. D'autres vont plutôt à l'inverse, par des populations moins importantes. Ça peut passer par des... dans le Japon de l'époque d'Edo, il est très important, enfin du Moyen-Âge et du Japon de l'époque d'Edo, donc du 17e, 18e, 19e siècle, la question des serments. Les serments sont extrêmement importants, et souvent on demande aux gens d'apostasier en apposant leur sceau sur un serment qui atteste de leur changement de religion. Voilà, donc souvent, ça passe par ce genre de billets, et ceux qui refusent peuvent avoir donc connaître des problèmes, soit être expulsés, perdre leur statut social, perdre leurs biens, ou alors être mis à mort dans certains cas.
Et pour la Compagnie de Jésus et pour les missionnaires qui se trouvent là-bas, ça change aussi des choses?
Ah oui, pour eux, ça change très rapidement, puisque à peu près 10 mois après l'interdiction du christianisme, théoriquement, la totalité des jésuites et aussi des ordres mendiants qui sont présents, puisque ils sont arrivés entre temps, les franciscains et les dominicains, les augustiniens, ils sont donc expulsés du pays donc en 1614. Sauf qu'un certain nombre d'entre eux, autour de 40, vont rester clandestinement. Et dans les années qui suivent, jusqu'au début des années 1630, on a de temps en temps donc, des missionnaires qui arrivent à entrer sur le territoire japonais.
Donc on le comprend, il y a cette période de persécution qui dépend un petit peu de ce que font les seigneurs. Là où les seigneurs veulent vraiment appliquer une interdiction stricte du christianisme, comment est-ce que les chrétiens continuent à s'organiser, à survivre pour pratiquer leur culte ?
Alors c'est plutôt progressif, hein, mais disons que il faut d'abord parler un peu des autorités qui essayent d'abord de décapiter la tête de l'Église, et donc les premières cibles ce sont les missionnaires. Alors ils sont assez peu nombreux, et ensuite ce sont c'est le clergé japonais qui est aussi assez limité en termes numériques, mais surtout les soutiens laïcs. De la Compagnie de Jésus, ça peut être les chefs de confrérie, par exemple. Et toutes ces personnes qui permettent notamment aux missionnaires de se déplacer, hein, les missionnaires se déplacent de manière de plus en plus clandestine, vont progressivement être arrêtés, mis à mort, soit vont apostasier aussi. La population, très rapidement, va devoir se passer des missionnaires et même de leurs élites, donc les samouraïs de haut rang, etc. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez en quelque sorte dans la réalité des faits, la plupart des gens vont apostasier, mais vont garder une pratique au niveau local, donc qui est axée sur des réunions assez régulières, des réunions notamment pour prier, notamment le dimanche, ou pour les grandes fêtes. Voilà, donc ça va devenir une religion qui progressivement sera uniquement dans le cœur de la famille et des villages.
Vous nous parlez dans votre livre de crypto-christianisme, donc de christianisme caché. Et là, vous nous dites que ça se passe donc dans l'espace privé, dans le cœur de la famille. Est-ce que, par exemple, le pouvoir vient s'ingérer et vient vérifier que les familles respectent bien l'interdiction ? Ou est-ce que c'est fait de manière assez laxiste et les chrétiens, finalement, tant qu'ils restent dans leur maison, tout se passe bien ?
Alors, généralement, c'est ça. Généralement, tant qu'il n'y a pas de manifestation publique, les autorités n'interviennent pas. À quelques périodes, la situation change, notamment au moment de la fermeture du pays, puisque juste avant la fermeture du pays, vous avez un épisode assez important qui est la révolte de Shimabara Amakusa, qui est la plus grande révolte populaire de l'époque d'Edo, donc à peu près 40 000 paysans et pêcheurs de deux régions situées à proximité de Nagasaki, prennent les armes, et la plupart d'entre eux sont des chrétiens, dans les sources, c'est des chrétiens revenus à la foi. C'est-à-dire qu'ils ils font un certain nombre de demandes, et parmi leurs demandes, ils réclament l'autorisation de pouvoir pratiquer de nouveau en public leur religion. Et un peu avant cette révolte, et après cette révolte, les autorités japonaises commence un peu à se poser des questions sur le fonctionnement de l'interdiction et sur son efficacité. Et là, il va y avoir un petit peu des réflexions une tentative, peut-être pas de contrôler, c'est pas l'Inquisition, hein, mais en tout cas d'influer sur le fort intérieur. Mais très rapidement, dès que les choses vont se calmer, dès qu'ils voient que les risques de révolte vont disparaître, ils vont arrêter en fait de vraiment s'intéresser à ces questions-là et vont tolérer en général ces pratiques semi-clandestines ou familiales.
Amis auditeurs, c'est l'heure de notre pause musicale. On se retrouve tout de suite, juste après ça.
Loin vers la mer, je porte mon regard. Où est mon père quand est mort tout espoir? Soldats qui l'honorent.
Amis éditeurs, vous venez d'écouter L'Arme d'Ivoire du groupe des Padrés. Et je retrouve Martin Noguera Ramos, auteur de La foi des ancêtres, chrétien caché et catholique dans la société villageoise japonaise du XVIIe au XIXe siècle. Monsieur Ramos, on était en train d'évoquer avec vous ces communautés, ce christianisme caché. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organisent les communautés en l'absence de prêtres? Comment on fait pour baptiser les enfants, pour enseigner le catéchisme?
Alors c'est un sujet qui est assez complexe à traiter puisque les sources sur ces communautés sont assez éparses et on a quelques documents sur le XVIIe siècle qui portent plutôt sur des communautés catholiques. On a notamment des règlements de confrérie qui nous montrent ce que devait être donc une pratique un peu idéale du point de vue de la Compagnie de Jésus. Et on a tout au bout de la période de la proscription, au moment où les chrétiens cachés donc, sortent de la clandestinité à la période d'ouverture du pays, donc dans les années 1860. Là, on a des premiers témoignages de missionnaires français et aussi des autorités japonaises qui nous permettent d'en savoir plus sur le fonctionnement de ces communautés. Mais pour dire les choses de manière synthétique, et si on repart sur le XVIIe siècle et sur ces règlements de confrérie, il y a d'abord une hiérarchie assez stricte. Les jésuites demandent au début du 7e siècle que les villages élisent souvent des chefs qui sont organisés eux-mêmes au niveau régional. Et ces chefs sont souvent les personnes qui baptisent ou alors ils sont secondés par des personnes qui vont donner le baptême. Et on sait que cette structure, on la retrouve jusqu'au 19e siècle. Elle peut un peu changer, mais en tout cas, on retrouve la même notion, la même hiérarchie ou une hiérarchie similaire donc, entre les siècles. Donc ce sont ces personnes-là qui invitent donc leurs fidèles en quelque sorte à se réunir donc très régulièrement. C'est quasiment plus de 50 fois par an en général. Hein. C'est déjà tous les dimanches, donc plus les fêtes, donc c'est quand même assez important. Et généralement, les documents disent que jésuites et les quelques traces qu'on a beaucoup plus tardives, que c'est essentiellement pour prier. La doctrine pour le XVIIe siècle, ce qu'on sait, elle passe essentiellement par des textes qui sont, disons, agréables à l'oreille, en tout cas un peu divertissants, les vies de saints, les traductions de vies de saints, qui sont en quelque sorte la piété mise en action et qui servent de modèle pour ces gens. La prière, je le disais, est extrêmement importante. Il y a cette prière, donc plus que toutes les semaines d'ailleurs, mais il y a aussi... on incite hein, les confrères hein, qui sont très très nombreux hein, je pense que c'est pas seulement une élite hein, c'est quasiment toute la population est organisée dans ce système de confrérie. On leur demande de prier très régulièrement pour les morts et c'est même chiffré en fait selon statut hein, des morts. C'est donc s'il s'agit d'un chef de la confrérie même ou de la confrérie d'à côté. Et si on met un peu bout à bout toutes ces prières, je pense que ça devait vraiment occuper leur journée, en tout cas leur matinée, leur soirée. Et ils ont un certain nombre d'objets d'objets. Alors, il y a des objets du siècle chrétien, donc du 16e, 17e siècle, qui ont été conservés vraiment comme des reliques extrêmement importantes. Ça peut être des peintures sur rouleau, ça peut être des médailles. Et on a, dans certains cas, donc après donc la fermeture du pays, des artistes crypto-chrétiens qui vont faire leurs propres objets de dévotion, qui sont souvent un mélange, mais qui ont une base donc, de ces peintures chrétiennes produites par les jésuites ou leurs élèves, mais qui mélangent aussi des éléments locaux.
Tous ces objets, on peut les voir, les admirer dans le musée des missions étrangères de Paris. Et pour avoir visité ce musée, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets qui se réfèrent à la Vierge Marie. On sent qu'elle a une grande place dans les foyers japonais et dans les communautés japonaises, notamment à cette époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la dévotion à la très sainte Vierge Marie est aussi importante ?
Alors, on a pas de document qui nous dit précisément pourquoi, mais en tout cas, on voit vraiment que la Vierge Marie occupe une place extrêmement importante, au point même de supplanter le Christ à une certaine période. C'est-à-dire que au début de la répression, la plupart des documents sont soit issus des autorités japonaises, qui ont un intérêt assez faible pour les questions doctrinales, soit issus de la Compagnie de Jésus, qui, elles, ont tendance un peu à mettre de l'orthodoxie sur des pratiques qui ne sont pas toujours totalement orthodoxes. Donc c'est assez difficile de voir, de sonder le fort intérieur des catholiques de l'époque. Par contre, pour les documents de la fin de l'époque d'Edo, on a la période de l'ouverture du pays, mais aussi un petit peu avant, puisque des chrétiens cachés sont l'objet d'enquêtes des autorités japonaises. Et ces paysans chrétiens cachés sont souvent donc interrogés et on leur pose des questions sur leur religion. Et on a des documents qui indiquent que pour eux, la Vierge Marie est, dans le vocabulaire de l'époque, le Bouddha principal. On a même un document assez intéressant qui dit, où on leur demande de classer un petit peu leur divinité. Ils font la Vierge Marie est notre Bouddha principal et il y a deux autres Bouddhas secondaires, Jésus et Ignace, mais on ne comprend pas très bien leur fonction. Donc avec le temps, la Vierge Marie a fini par prendre une importance certaine, et on le voit aussi dans l'iconographie des chrétiens cachés où la Vierge est vraiment apparaît partout, alors que le Christ aussi, mais moins.
Si on prend de la hauteur, comment est-ce que la politique de proscription du christianisme évolue à travers les siècles, après l'expulsion des puissances ibériques notamment ?
Alors, juste après l'expulsion, donc c'est aussi hein, au moment de la fin de la révolte de Shimabara, donc dans les années 1640-1650, c'est là où disons que la répression est la plus violente, mais ça va s'arrêter dans les années 1670-1680. Il y a encore des arrestations jusqu'en début des années 1680 et des mises à mort. Donc de personnes de statut social assez bas. Mais ensuite, la question chrétienne disparaît totalement des sources. En fait, pendant presque 100 ans, donc des années 1680 jusqu'à 1790, on n'a aucun document qui porte sur des enquêtes, des arrestations ou des exécutions de chrétiens cachés. Donc, ce qu'on en comprend, et on le voit par rapport aux documents qui ressurgissent à la fin du 18e siècle, c'est qu'il y a un peu une volonté et des populations locales et des autorités de tolérer les pratiques chrétiennes tant qu'elles restent confinées à la famille, au village, et qu'elles n'ont pas d'expression publique. Et donc, ça va avec... la question va changer avec l'ouverture du pays, puisque le christianisme est toujours interdit. Et donc, le retour des étrangers, le retour des missionnaires donc de différentes confessions, mais la prise de contact des chrétiens cachés et des missionnaires, c'est ce qui va en fait relancer la proscription, en quelque sorte, la remettre en vigueur dans les années 1860.
Précisément, en 1853, le Japon se réouvre sur le monde, avec des prêtres missionnaires qui reviennent. Comment sont-ils accueillis par les communautés survivantes ?
Alors, c'est un processus qui est relativement long. Hein. Les missionnaires catholiques, parce qu'il y a des missionnaires protestants orthodoxes aussi, mais les missionnaires catholiques vont revenir au Japon progressivement aux années 1860, souvent donc, au service un peu des diplomates français. Et ils vont construire des églises dans les ports qui sont ouverts aux étrangers, notamment donc à Nagasaki, où une église est inaugurée en 1865. Et là, donc, des villageois chrétiens cachés qui habitent très près, donc, aujourd'hui c'est dans la ville de Nagasaki, à l'époque c'est un village situé en banlieue en quelque sorte, vont donc se présenter à ces missionnaires et leur déclarer leur identité. Ceux-là vont se convertir, mais ce n'est pas le cas de tous les chrétiens cachés.
Merci beaucoup, Martin Noguera-Ramos, de nous avoir parlé de la période de la proscription des catholiques au Japon. Vous êtes l'auteur de « La foi des ancêtres, chrétiens cachés et catholiques dans la société villageoise japonaise du XVIIe au XIXe siècle » paru aux éditions CNRS. C'est la fin de votre émission préférée, amis auditeurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de partager le podcast. D'ici là, que la paix soit avec vous. À très vite.